Allô? Ouais. Ah ben c'est gentil d'avoir pensé à moi alors. Ah bon, ben d'accord. Ah ben c'est un beau projet, hein. Non mais non, ça me fait vraiment plaisir, vraiment je te remercie, hein. Alors si j'oublie, t'oublie pas de me rappeler, hein. Salut. T'es quelqu'un qui m'appelait pour un projet qu'il avait pour moi. Je me dis vraiment que j'ai répondu parce que on va pas être au courant sinon. Parce qu'en général, quand quelqu'un vous appelle, il y a de fortes chances qu'il vous connaisse. Et puis dans l'appel, il y a deux choses. Hein. Ou on va communiquer une information, ou on va vous poser une question, vous demander quelque chose. Mais là, c'était bien, c'était un projet. Je ne m'y attendais pas en plus. Hein. N'empêche que c'est quand même important. De rester connecté. Bon, on va pas être esclave du téléphone, mais quand même. Je vous invite à lire un passage dans le livre de la Genèse. Alors, on va lire un passage dans le livre de la Genèse, et on lira un autre passage dans le livre des Actes. Et pendant ce temps, Jean-Loup va nous afficher une carte. Voilà, livre de la Genèse, on commencera au chapitre 11 à partir du verset 27. Chapitre 11, verset 27 jusqu'au chapitre 12, verset 9. Voici la lignée de Térakh. Térakh eut pour fils Abraham, Nakhor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père Térakh dans le pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nakhor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et la femme de Nakhor Milca. Elle était la fille d'Aram qui était le père de Milca et de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Térakh prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aram, et de sa fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Il sortit ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais arrivé à Charan, ils s'y installèrent. Térakh vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens occupaient tout le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel et où lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouvait à l'est de Bethel et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest de Haï. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et il fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua ses étapes en direction du Négoé. Je vous invite à lire aussi un passage dans le livre des Actes au chapitre 7 où c'est Étienne là qui va parler devant le Sanhédrin et qui rappelle un peu l'histoire du peuple d'Israël. Donc chapitre 7, versets 1 à 4. Le grand prêtre lui dit, est-ce exact? Étienne répondit, mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, et il lui dit, quitte ton pays, ta famille, et va dans un pays que je te montrerai. Il a alors quitté le pays des Chaldéens qui habitait à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Voilà un appel vraiment historique qui a une grande importance, puisque aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est au bénéfice de la promesse qui a été faite à Abraham. L'histoire d'Abraham, là, quand il a l'appel, qu'il est encore en Mésopotamie, l'histoire d'Abraham suit l'histoire de la tour de Babel. Et quand on lit l'histoire de la tour de Babel, un petit peu avant, chapitre 10, on voit que non seulement à la tour de Babel, les langues ont été mélangées, mais les gens se sont dispersés. Abraham reçoit cet appel. Il habite, vous voyez, en bas, à droite, à Ur, et il va se rendre à Sichem. Évidemment, il n'a pas traversé tout droit comme ça, parce qu'il y avait le désert. J'ai à peu près calculé, il y avait 700 km de désert, donc ça aurait fait quand même un peu long. Par contre, il va suivre une route connue à l'époque, c'est une route commerciale qui était empruntée par les gens qui faisaient du commerce, par les caravanes, tout ça. Donc il va suivre l'Euphrate, hein, c'était le plus simple. Et après sa station à Charan, il va redescendre. Donc c'est un voyage qui va faire plus de 1000 km. Donc je me dis, à l'époque, avec les chameaux, les caravanes, tout ça, ça a pris, je veux dire, au moins plusieurs semaines, peut-être moi, je ne sais pas exactement. Mais c'était un long voyage. Et là, dans cette histoire d'Abraham, dans l'appel qu'il a reçu de Dieu, j'ai discerné trois étapes. La première étape, c'est déjà vraiment ce premier appel que Abraham va recevoir. Quand il reçoit l'appel, son père Terak est en vie. Et c'est tout le clan qui s'en va. Hein, c'est pas simplement Abraham tout seul ou avec sa femme, mais c'est tout un clan qui va partir. Et on sait qu'à cette époque, c'est le père vraiment qui dirigeait le clan. Et, hein, c'était des familles, comme on dit, patriarcales. Le père, c'était non seulement le père, mais le chef du clan, le respectait. Et quand il disait quelque chose, on n'allait pas contre sa volonté. C'était vraiment lui qui dirigeait. Et là, on voit que Terak rassemble la famille et qu'il commence à partir. Une chose intéressante, c'est que l'appel, vous voyez, il a reçu donc quand il était à Ur. Et il a reçu un appel pour aller à Sichem, enfin, dans cet endroit du pays de Canaan, c'est là-bas qu'il doit se rendre. En tout cas, je me dis déjà, j'ai essayé de me mettre un peu dans le contexte. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on voit dans ce premier appel, dans cette première étape? Déjà, un pas de foi clair de leur part. Parce qu'ils reçoivent cet appel, et j'ai essayé de dire tous les textes où on parle d'Abraham, mais il n'y a pas de texte qui dise comment il se passe vraiment l'appel. Hein, est-ce qu'il a entendu la voix de Dieu? Est-ce qu'il a eu ce qu'on appelle une théophanie? Ou on ne sait pas, est-ce qu'il a eu un songe? Après, je me suis dit, mais quand il a partagé ça avec son père, avec le clan, comment qu'ils ont réagi? On n'a pas tout ça. Mais n'empêche qu'il y a un pas de foi, parce qu'ils vont se mettre en route. Et dans ce pas de foi, j'y voyais un peu comme deux actions pour Abraham et la tribu. La première, c'est qu'il a appelé à quitter. Il a appelé à se déraciner, à se séparer. Il va avec les siens sortir d'une grande ville où il aura passé une bonne partie de sa vie. Il va rompre avec ses attaches terrestres, avec sa sécurité, avec un lieu qu'il connaît bien, où il connaît les habitudes, il connaît la culture et tout. Et je tiens à préciser une chose, il n'est pas en train de quitter, entre guillemets, un bled. Hein, il ne quitte pas un bled pour aller se rendre dans une grande ville d'Égypte en disant waouh, vraiment, c'est super. Non, quand il part, c'est pour un pays inconnu. Il ne sait pas où il va. Donc, j'ai fait quelques petites recherches. Et voilà ce que dit un archéologue sur la ville de Ur. Les fouilles de Léonard Woolley, de 1922 à 1934, révélèrent quelque chose de la splendeur des siècles antérieurs à l'époque d'Abraham. Les tombeaux royaux d'Ur, qui datent sans doute de 2500 avant Jésus-Christ, livrèrent une merveilleuse collection de vases d'or qui font l'admiration des amateurs d'histoire ancienne. Ur avait un système complexe de gouvernement. Son commerce était développé et fondé sur l'usage courant de documents écrits, comme en témoignent reçus et contrats. Ils avaient des égouts, des rues, des maisons à étages, un grand temple en forme de tour, la ziggoura, et des routes commerciales vers les grandes villes du nord et du sud, et bien d'autres marques d'une civilisation avancée. Voilà ce que Abraham est appelé à quitter. La deuxième action, c'est celle après, d'aller. Mais d'aller sans savoir où. Et je trouvais que c'était vraiment un pas de foi. Quitter un certain confort, une certaine sécurité, pour aller dans un lieu inconnu. D'après le texte, Abraham ne pose pas de questions. Suite à ça, ah, Seigneur, tu m'as demandé de quitter, mais si au moins je pouvais savoir où est-ce que tu veux m'amener, si je pouvais savoir pourquoi, qu'est-ce que je vais vraiment faire. Je me suis dit, au moment où Dieu lui dit dans la promesse, je ferai de toi une grande nation alors que sa femme est stérile, comment lui, il a compris ça. Quand Dieu lui dit, toutes les nations seront bénies en ton nom, mais qu'est-ce que ça veut dire au moment-là, pour lui, toutes les nations vont être bénies en ton nom, c'est... Il était en droit de se poser pas mal de questions. Comme je vous ai dit, qu'est-ce que je vais faire dans ce pays, finalement? Est-ce que je vais me plaire? Et puis, je parle peut-être pas la langue du pays, hein, ça fait rigoler. En préparant ça, je pense à votre fille. Mais quelle est la culture, leur manière de vivre, leur manière de penser? Et puis, est-ce que c'est pas dangereux, ce pays? Est-ce qu'il est vraiment dans la paix? Et puis comment les gens vont m'accueillir, moi qui suis un étranger, on n'est pas toujours bien vu. Et tu m'envoies là-bas et je ne sais même pas de quoi sera fait mon lendemain, c'est vraiment pas évident. Et puis il ne faut pas oublier que le choix d'obéir d'Abraham, il entraîne toute sa tribu. Alors on ne sait pas s'ils étaient 15, 20, 30, on ne sait pas, mais enfin, ils entraînent quand même tout le monde. Et je me suis dit qu'Abraham avait pas mal de choses à nous apprendre. Le premier appel que nous avons reçu en tant qu'être humain, c'est un appel qu'on reçoit de Dieu, c'est l'appel à la conversion, à se réconcilier avec lui. Et certains commentateurs voient dans cet appel d'Abraham l'image de notre appel à la conversion. Bon, je ne voyais pas tout à fait comme ça, mais il y a cet autre appel que nous on reçoit, c'est l'appel au service, qui peut aller jusqu'à un service missionnaire à plein temps. Mais quel que soit l'appel qu'on reçoit, quand on est dans l'église, on reçoit toujours un appel à servir, suivant les dons que Dieu nous accorde. Mais dans les deux cas, quand vous y réfléchissez bien, parfois il faut quand même quitter, parfois il faut séparer, parfois il faut abandonner. Peut-être pas à un niveau aussi important qu'Abraham, mais parfois, on est placé devant des choix pour marcher avec Dieu. Pour certains, ça peut être quitter des lieux, quitter des amis qui avaient peut-être une mauvaise influence sur nous. Pour d'autres, c'est peut-être se séparer de mauvaises habitudes, de mauvais comportements qui sont ancrés en nous depuis longtemps. D'autres encore devront peut-être abandonner des rêves, voire pour certains, peut-être une carrière, une réussite sociale. Je connais un frère, que vous connaissez aussi, qui aurait pu avoir une carrière de footballeur professionnel. Mais il a fait le choix de l'abandonner pour suivre Jésus. Aujourd'hui, il est dans un ministère à plein temps, il s'appelle Thierry Mendes. Alors quand j'ai fait ça, en travaillant en steak, je me suis dit, Jean-Pierre, que devrais-tu abandonner pour répondre plus pleinement à l'appel que Jésus te donne? C'est clair que quand il y a un appel, on a le choix de répondre ou pas répondre. Quand le téléphone sonne, vous êtes totalement libre de répondre ou pas. Si vous appelez des gens, mettons, aux heures de midi, ben, ils font le choix de couper le téléphone. On ne répond pas, parce que 9 fois sur 10, c'est une publicité, donc on ne répond pas. Mais c'est un choix qu'on fait. Selon ce choix-là, on loupe peut-être une bonne affaire. Mais on a fait un choix, on assume la conséquence. Voilà, il y a une deuxième étape, c'est ce que j'ai appelé, je n'ai pas trouvé d'autre nom, mais j'ai appelé le piège de Charon. Je ne sais pas si on dit Charon ou Charon, mais voilà. Alors peut-être que vous ne serez pas tout à fait d'accord avec l'interprétation que je fais de ce texte. Mais je me demande quand même si dans cette vallée, Dieu lui-même n'a pas voulu éprouver Abraham. En tout cas, une chose est claire, c'est que dans l'endroit où ils sont, la tentation de s'enrichir est bien présente. Cette vallée est connue hein, pour être une route commerciale qui est bien fréquentée et, d'après ce que j'ai pu lire, que c'était vraiment un lieu où on pouvait faire des affaires, surtout si on était commerçant. Dans la deuxième partie du verset 5, hein, vous pouvez lire, il est dit que quand Abraham va partir de Charan, il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Donc Abraham s'est enrichi. Il y avait finalement un choix entre l'enrichissement et l'obéissance. Mais là, dans le texte, on n'a pas assez d'éléments pour savoir quel est le rôle qu'a joué le père Térakh, voire même les autres membres de la tribu. Peut-être, si vous voulez, hein, le lieu est bien, on peut faire des affaires, on peut s'enrichir, avoir une belle vie et tout, pourquoi continuer le trajet? Comment Abraham après a réagi? Quelles ont été ses pensées? Est-ce que lui-même il a trouvé que, bah oui, finalement, la vallée est pas mal, parce qu'il ne devait pas être trop âgé quand il est arrivé là-bas? Voilà, il était un peu dans le truc où on veut hein, foncer dans la vie, on a de la vitamine dans les veines et tout, et là, peut-être qu'il s'est entraîné, ou peut-être que lui était d'accord vraiment qu'on reste, ça on ne sait pas vraiment. Rien ne nous est dit sur son état d'esprit. En tout cas, ça m'a fait penser à cette parole de Jésus qui nous rappelle qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, parce qu'il y en a forcément un qu'on va finir par laisser tomber. Après, je me suis posé la question, combien de temps sont-ils restés dans cette cité? Alors, on a l'âge de Térakh, il a eu Abraham à 70 ans, c'est qu'Abraham quitte la vallée à 75, que Térakh est parti à 205 ans quand il est mort. Donc, je me suis dit que Marie-Noël, ça lui ferait un bon calcul pour cet après-midi. Mais je ne sais pas s'il y a assez d'éléments là pour calculer. Mais je me suis dit, c'est sûr, s'ils font une pause d'un an dans cette caravane, c'était encore pas. Mais s'ils sont arrêtés, mettons, 20 ans ou 30 ans, je n'ai pas trouvé. Je me suis dit aussi, je parle de Dieu comme si là c'était un homme, j'en suis conscient, mais est-ce qu'on pourrait dire que Dieu a attendu? Dieu a attendu que Térakh meure pour rappeler Abraham? Est-ce que lui, Abraham, a pensé, depuis le temps qu'il était arrêté là, finalement que Dieu l'avait oublié, que la promesse n'était plus valable, parce qu'au fur et à mesure que les années ont passé, qu'il a dû oublier, Dieu apparemment ne lui a pas reparlé avant la mort de son père, donc s'il est resté là avant 20 ans, certainement qu'il a peut-être oublié cette promesse, ou est-ce qu'il l'a cultivée dans son cœur avec l'espérance que Dieu rappelle? Est-ce qu'il disait « Dieu m'a oublié », peut-être « Dieu m'a remplacé par quelqu'un de plus obéissant » On ne sait pas le temps qu'a duré cette période-là, on sait juste qu'ils se sont arrêtés, ils se sont enrichis et il repartira avec ses richesses. Aujourd'hui, une chose est claire et certaine, Quand on répond à l'appel du Seigneur, le diable essaie souvent de nous ramener en arrière. Il essaie souvent de nous décourager. Un frère qui est missionnaire au Burkina Faso, qui traduit la Bible, vous voyez, il a dit que quand il a des missionnaires arrivaient comme ça, des jeunes missionnaires sur le terrain, il avait ce qu'il appelait, il a appelé lui l'année un peu la lune de miel. Et il a dit, le doute vient après. Hein, une fois qu'on a découvert le pays, la culture, qu'on est entré dedans, tout ça, le doute, c'est là qu'il dit qu'il va falloir vraiment persévérer, parce qu'il passe par un moment comme ça de creux. Et c'est là que le diable va venir attaquer pour mettre le doute, mais est-ce que vraiment t'es appelé à faire ça, regarde un peu le bon travail, le bon métier que tu aurais pu avoir, pourquoi être dans cette situation aussi difficile. Il va essayer de nous faire miroiter des richesses, des réussites sociales. Il utilise parfois même des proches pour nous empêcher de répondre. Je me suis dit, quand le téléphone a sonné, peut-être qu'il y en avait un ou deux qui allaient sauter en l'air. Oh, Jean-Pierre, franchement, tu aurais pu éteindre ton portable, mais ça n'a pas marché. En tout cas, une chose est claire, le diable est souffler sur nous un beau parfum pour nous faire tourner la tête. Et je trouve que c'est normal que Dieu permette ce genre d'épreuve. Certains disent que c'est un test qu'il nous faut passer. Jésus a dit à Simon, Pierre, un peu avant son arrestation dans l'évangile de Luc, « Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais après, il lui dit, « Ne crains point, j'ai prié pour toi. » La troisième étape, c'est la grâce infinie de Dieu. Et dans l'histoire d'Abraham, bien souvent, on va voir la grâce de Dieu agir. L'histoire d'Abraham nous montre que si toute la promesse avait dépendait de la fidélité de l'engagement d'Abraham, elle n'aurait pas pu s'accomplir. C'est vraiment Dieu qui va le conduire, qui va le relever, qui va lui pardonner, qui va le gracier pour qu'il puisse vraiment avancer. Et là, je me suis dit que la grâce, elle se manifeste par la patience de Dieu. Hein, Abraham fait cet arrêt-là à Charan et Dieu est patient, j'ai envie de dire, c'est Dieu attend. Mais il y a aussi une sorte de pardon qui n'est pas exprimé, mais quand Dieu redonne les promesses à Abraham, là on voit au chapitre 12, il n'y a aucun reproche, il lui refait la promesse. Et Abraham va partir, il prend les richesses qu'il a, mais Dieu ne dit rien. Moi, je me suis dit aussi qu'on ne sait pas à l'âge qu'Abraham est arrivé là. Mais je me suis dit, il a certainement aussi mûri dans sa vie, tout simplement en deux. Il a attrapé peut-être quelques poils au menton. Peut-être qu'à l'âge là, il était plus prêt à répondre à cette promesse. Et je trouve que la grâce se manifeste vraiment dans le fait que Dieu ne fait aucun reproche, mais il redonne à Abraham une promesse qui est quand même extraordinaire. Il y a la promesse d'un pays, il y a la promesse d'une descendance. Et à chaque fois, il me dit, mais comment il comprend ça, lui, que sa femme est stérile, et que c'était vraiment quelque chose de très dur, presque une malédiction à cette époque. Est-ce qu'il pensait déjà que Dieu allait lui donner une autre femme, tout ça? Puis je me suis dit, pour le pays, il avait aussi des questions à se poser, puisqu'il ne sait pas où il va. Alors c'est sûr qu'il a des serviteurs avec lui, mais les serviteurs, c'est pas une armée. Alors, il va dire, je te donnerai un pays quoi? C'est un pays à conquérir et tout, comme ça sera le cas du peuple d'Israël. C'est peut-être pas avec ses serviteurs qu'il va pouvoir aller renverser une armée. Et il part quand même avec une parole que Dieu lui donne, mais qui reste énigmatique. Toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Pas évident à comprendre. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut tous recevoir un appel. On reçoit tous, de toute façon, un appel qui est différent. Il y a bien sûr au départ l'appel à la conversion, mais aussi l'appel à servir. Et parfois, on peut bien démarrer et avoir des moments comme ça d'arrêt. Il y en a certains qui repartent, et puis il y en a d'autres, non. J'ai des collègues dans le ministère qui ont arrêté. J'ai un collègue, il a fait l'Institut biblique avec moi pendant 3 ans, il était dans une mission en Suisse au bout de quelques années, il a arrêté. Hein? Après il a retrouvé un boulot, il s'est engagé dans une église et tout. J'en ai un autre qui a fait aussi 3 ans d'Institut biblique avec moi, qui était un de ses fonceurs aussi. Et lui, il a carrément abandonné la foi. Et vous voyez, c'est des questions. Et je peux vous dire, loin de moi, la pensée de les juger. C'est toujours plus facile de juger l'autre que de vivre dans ses baskets. Mais c'est des questions. C'est pourquoi ? Mais une chose est certaine, Dieu redonne toujours une seconde chance. Un Dieu qui reste patient envers chacun d'entre nous. Le chemin du retour à lui est toujours possible parce qu'il est amour, il a de la compassion, de la miséricorde, il est toujours prêt à pardonner. Et je vous dirais, on donne beaucoup de noms à Dieu, j'aurais presque envie de dire que Dieu est aussi le Dieu de la seconde chance. Pour conclure, je dirais que Abraham, tout au long de sa vie, va découvrir de plus en plus ce Dieu qu'il a appelé. Il va apprendre à le connaître d'une manière tellement personnelle qu'Abraham sera appelé l'ami de Dieu. Et finalement, on est tous invités à l'imiter. Amen.